Donc, je suis Émilie Guichard, je travaille à EM Lyon Business School depuis maintenant une vingtaine d'années, je pense, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, oui, j'aurais aimé vous parler d'une nouvelle formation que nous avons ouverte en mai 2021, donc qui est assez récente. Nous avons maintenant les premiers retours véritablement sur le marché de l'emploi et des retours plutôt positifs. Si vous connaissez EM Lyon Business School, vous êtes plutôt habitué à ces formations, on va dire Bac plus 3, Bac plus 5 de gestion et de management, c'est-à-dire classiquement des ingénieurs ou des préparationnaires qui sont venus chercher une deuxième brique, une brique plus de management avant d'aller sur le marché du travail. La toile est à l'opposé de ça. C'est un programme d'égalité des chances, d'inclusion par le numérique. Donc, il faut bien en avoir conscience. L'idée, c'était quoi? Nous sommes un organisme d'éducation et nous avons à cœur d'éduquer tout le monde. Et aujourd'hui, une partie de la population est un peu mise de côté, ne se sent pas appartenir à la société. Et c'est dans ce cadre-là où on s'est dit, mais comment nous pouvons aider ces 17-25 ans qui sont considérés comme invisibles au niveau de l'État, vous savez, sans formation, avec peu ou pas de qualifications, c'est-à-dire infra-bac, bac, ou ayant fait une première année en post-bac, mais n'ayant pas trouvé leur voie, et aujourd'hui sans emploi, non pas sans compétences, ça c'est clair, et également les personnes en reconversion professionnelle. Et donc, nous avons ouvert ce programme un peu en test. On fait ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'on a fait un premier test en mai 2021. Nous avons adapté notre maquette pédagogique en fonction du retour des entreprises que nous avons eues. Et le but de la toile, c'est véritablement en 17 semaines, donc c'est très court. On ne forme pas des experts, bien entendu, ce serait entièrement faux de dire cela. Par contre, nous prenons des personnes sans CV, sans lettre de motivation, puisque bien entendu, pour le public que nous accompagnons, ça n'aurait pas d'utilité de demander ce genre de choses. On les prend sur un entretien de motivation, c'est-à-dire qu'on est d'abord allé à la rencontre des acteurs de l'ESS qui les connaissent, qui les accompagnent, avec qui ils ont pu commencer à travailler un projet professionnel. Et nous, pendant 4 mois, on travaille la moitié de la semaine sur des compétences techniques où on n'a pas diminué les exigences de l'EM Lyon, puisqu'on engage aussi la réputation de l'école, bien entendu. Mais nous avons juste mis à leur côté un dispositif vraiment d'accompagnement plus. Si vous connaissez les cours de l'EM, vous avez des PGE qui peuvent être en amphi à 550 avec un prof. Et ben, dans la toile, ils sont 12 avec 2 profs en salle de cours. Et donc vraiment, on favorise cet apprentissage avec les autres en mode projet, par l'action, et on leur fournit le matériel informatique nécessaire pour aller vers cette réussite. Et l'autre partie de la semaine, on travaille sur qui ils sont, quels sont ces métiers pour qu'ils en aient une bonne connaissance et conscience, et on travaille à un projet professionnel. Voilà, vraiment en très grand résumé, parce que je pense que ce qui sera plus intéressant, ce sera l'interaction. Et il y a Laurent également qui doit présenter son autre programme. Juste une dernière précision. Nous, notre but en 4 mois, ce n'est pas surtout pour les plus jeunes, puisque nous avons 80% qui sont des 17-25 ans, c'est de s'associer à d'autres écoles pour justement continuer cette progression, que ce soit de manière classique ou en alternance. Et c'est en cela qu'on les lance vers le marché de l'emploi. Voilà.
Et Émilie, peut-être juste, est-ce que tu peux nous préciser les quelques formations ou les quelques fonctions qui sont visées post-formation?
Aujourd'hui, on a, on va dire, 8 fonctions en règle générale. Maintenant, après, ça dépend du profil des apprenants qui nous rejoignent et de leur capacité, ils peuvent nous étonner. Par exemple, on a un qui a été pris en cybersécurité, en CDI par une entreprise. Nous ne formons pas la cybersécurité. Mais voilà, donc ils peuvent aller plus loin. Nous, classiquement, on est plutôt côté front. Donc, on a des chefs de projet digital. On a également des développeurs JavaScript, ce genre de choses. On est également sur du BizDev, de la data. On en a 2 en ce moment qui sont dans des boîtes d'IA et qui sont sur du growth hacking, voilà, des choses comme ça. Donc, on est quand même plutôt front, même si on a des apprenants qui sont aujourd'hui en bac et qui sont en train de monter sur d'autres technos. Finalement, ils se développent avec un terreau qu'on leur a donné.
Donc, je suis Laurent Godin d'M2I Formation à Lyon. M2I est un gros groupe, un gros organisme de formation. On est présent un petit peu partout en France. On va surtout parler des actions qu'on mène au niveau régional, mais c'est vrai que depuis 2 ans, c'est des actions qui se sont beaucoup nationalisées, puisqu'il y a beaucoup de mutualisation en fait sur tout le territoire, sur des projets de type formation justement liés à l'employabilité. On est un groupe assez ancien, on existe depuis une trentaine d'années. Moi-même, je suis dans la formation depuis plus de 20 ans, je suis très ancien aussi. On est au départ un organisme de formation continue, donc orienté entreprise, orienté salarié, avec forcément une très grosse spécialité sur l'IT d'une manière générale, et la bureautique, hein, il y a quelques années de ça, il y a déjà pas mal de temps. Au fil du temps, effectivement, on a beaucoup grossi sur ces sujets-là, on a accompagné beaucoup de services informatiques, d'ESN, et on a vu arriver, il y a quelques années, les premiers dispositifs d'accompagnement à la reconversion, à l'employabilité, qui ont été mis en place. Tout le monde a entendu parler, je pense, des fameuses PE, qu'on a pu bêta-tester en 2017, je crois, ou 2016, ici à Lyon, puisqu'on avait lancé une première PE avec le FAFIEC à l'époque sur une thématique IT, un peu en bêta-test pour voir ce que ça donnait. Donc on a depuis beaucoup, beaucoup évolué sur les dispositifs de reconversion, d'employabilité. On a toujours ce socle en fait, hein, de formation continue, de formation informatique pour les collaborateurs, notamment des ESN. Mais on s'est déployé très fortement sur les dispositifs d'employabilité, de reconversion, pour accompagner les entreprises à trouver justement des nouveaux collaborateurs avec plein de bénéfices. Hein. Marie-Laure en a commencé à en parler tout à l'heure et on en reparlera, je crois, un petit peu après. Pas simplement le nombre de personnes à recruter, mais également des parcours, des personnalités qui apportent des plus. Donc, on travaille sur les dispositifs de reconversion. Moi-même, je suis responsable de projets upskilling et reskilling, donc qui sont orientés vers les salariés qu'on va reskiller, ou bien évidemment des demandeurs d'emploi, par exemple, que l'on va former pour qu'ils soient opérationnels et qu'on puisse les proposer aux entreprises qui nous font confiance pour les intégrer dans leurs effectifs. Donc, on est sur plusieurs dispositifs de ce type. Le principal dispositif, effectivement, de reconversion à destination des demandeurs d'emploi, en tout cas celui qui est le plus simple d'accès à monter, qui est le plus, je dirais, direct et efficace, à mon sens, c'est la PE. La PE veut dire préparation opérationnelle à
Personnellement,
l'emploi.
pas.
Voilà, l'objectif de cette formation, parce que ça reste tout de même une formation, c'est, comme son nom l'indique, que le candidat devienne opérationnel et puisse être embauché là où il n'aurait pas pu l'être sans cette formation-là. Donc c'est un dispositif qui est relativement simple dans son fonctionnement. On a une formation de 400 heures maximum, donc on fait 57 jours de formation, hein, 399 heures, on laisse généreusement une heure de côté, pour avoir un moment de formation qui est un peu un coup de poing, c'est une opération commando, hein, une PE. On va de façon très intensive former les personnes sur 57 jours de suite. Le principe de la PE, c'est que c'est en un lot, on forme la personne et ensuite elle est employable. C'est une opération qui est un dispositif qui est organisé et financé par Pôle emploi. On avait encore jusqu'à peu de temps un double financement qui était de Pôle emploi et de la branche professionnelle. Donc Atlas pour vous. Atlas aujourd'hui s'est concentré sur un type de PE dont qu'on va détailler tout de suite et Pôle emploi s'occupe d'un autre type de PE en termes de financement. Néanmoins, dans l'organisation, on est toujours en fait en partenariat avec Pôle emploi qui communique auprès des demandeurs d'emploi selon les critères recherchés pour avoir des demandeurs d'emploi à potentiel qui veulent se reconvertir vers les métiers de l'IT, qui ont une vraie appétence pour y aller. Là aussi, je crois que Pierre-Antoine, on en parlera un petit peu après, parce que c'est très important dans la motivation et dans l'intérêt des entreprises de recruter ces candidats-là. On a deux types de PE, les PE dites C et les PE dites I. On est toujours sur les préparations opérationnelles à l'emploi. Dans le cadre d'une PE I, ça veut dire individuelle, on est sur une embauche, on est sur un recrutement direct. C'est une entreprise qui est à l'initiative de la PE. C'est une entreprise qui ne trouve pas ses candidats sur le marché de l'emploi. Vous savez tous à quel point c'est tendu, hein, et pénurique. Va se tourner du côté de Pôle emploi, va déposer une offre d'emploi, tout simplement via PE, et va sélectionner, pré-recruter un ou plusieurs futurs collaborateurs, demandeurs d'emploi, à potentiel, qu'elle veut avoir dans ses équipes, qui a le bon profil, qui a le bon mindset, comme on dit, ou les bons soft skills, comme on dit toujours en mot français, va ensuite les envoyer ces candidats, ces demandeurs d'emploi en formation, par exemple chez M2I, et à la suite de cette formation-là, va recruter effectivement ces personnes dans ses équipes. Pendant toute cette partie de formation, le demandeur d'emploi reste en statut demandeur d'emploi. Il est rémunéré par Pôle emploi, soit en gardant ses allocations habituelles, soit en ayant une rémunération spécifique pour un demandeur d'emploi en formation. La formation en question se déroule donc sur 57 jours et le recrutement se fait donc dans la foulée. On est bien sur là un dispositif de recrutement, c'est-à-dire que les personnes qui rentrent en formation POEI sont sélectionnées par l'entreprise. Donc, on est sur un recrutement de demandeurs d'emploi qu'on forme avant. C'est en fait une formation avant embauche, la POEI. C'est une aide quasiment à l'embauche, puisque ça permet de faire monter les compétences de la personne pour qu'elle soit employable, intégrable dans les équipes. Attention, on en reparlera là aussi, on parle bien de personnes qui sont en reconversion, donc juniors. Même si le dispositif est financé par l'entreprise, par Pôle emploi, il ne coûte rien à l'entreprise, c'est un vrai investissement aussi pour l'entreprise. Puisque quand la personne arrive en tant que junior qui vient de se reconvertir dans les équipes, il faut l'accompagner. Par contre, il y a des vrais bénéfices à intégrer les personnes en reconversion. Là aussi, je crois que c'est un des sujets dont on parlera juste après. Le deuxième dispositif POE est la POEC. On est sur une préparation opérationnelle à l'emploi collective. Là, on n'a pas d'entreprise à l'initiative de la PE, ni non plus un organisme. C'est la branche professionnelle qui déclenche. Atlas va dire, dans mon secteur, on est en manque de LTSC, on est en manque de développeurs Java, on est en manque de DevOps, de cyber, etc., etc. Donc, je fais un appel d'offres, je choisis quelques organismes à qui je vais confier des PE. Et c'est Atlas qui va être, ou les autres financeurs des autres branches, d'accord, qui vont être, grosso modo, à l'initiative et qui va tenir la barre. C'est eux qui vont dire, on va déclencher une POEC Helpdesk, une POEC Java à telle date avec tel organisme. L'organisme sélectionne des demandeurs d'emploi, travaille avec Pôle emploi pour les trouver, les sélectionne à la fois sur des critères qu'on pense être des futurs critères de réussite, mais aussi en tenant compte d'une certaine diversité, d'accord. On forme les personnes pendant 57 jours. À la fin de la formation, les demandeurs d'emploi sont toujours demandeurs d'emploi. Par contre, ils ont été formés de la même manière que pour une PUI, avec la même intensité, la même, le même aspect très concret et opérationnel de la formation. On va organiser dans ce cadre-là des petits job dating. On forme aussi, il y a des modules pendant la formation, pour que les stagiaires retravaillent leur CV, sachent se présenter en entretien, etc. Bref, on met en contact les stagiaires avec des entreprises qui peuvent les recruter en sortie de formation, tout fraîchement formés. Je finis sur le dispositif PE en disant, attention, on n'est pas sur un dispositif de diplôme, on n'est pas sur un dispositif de certification. L'objectif, c'est véritablement d'ouvrir le capot, de mettre les mains dans le cambouis et de beaucoup travailler concrètement. Dans un cas comme dans l'autre, que ce soit POI ou POEC. Il y a d'autres dispositifs qu'on propose chez M2I, comme les formations diplômantes, l'alternance, etc., qui amènent à un diplôme. Ce n'est pas l'objectif d'une PE. La PE, qu'elle soit C ou I, a comme objectif d'être employable, d'être opérationnel dans un nouveau boulot, dans une nouvelle branche qu'on ne connaissait pas. Forcément, il y a deux approches différentes qu'on travaille en POI ou en POEC. Sur des POEC, c'est nous qui choisissons les stagiaires, les entreprises ne sont pas à l'initiative de ce projet, ça va être pour le coup de l'opportunité. C'est-à-dire que nous, on va contacter des ESN, par exemple, ou d'autres entreprises, des services informatiques, en proposant de rencontrer les candidats qu'on est en train de former. Et évidemment, celles qui sont intéressées vont venir, vont échanger, souvent c'est des job dating qui se passent sur Teams, vont échanger et pourquoi pas recruter. C'est après une mise en contact, en fait, uniquement entre de potentiels employeurs et des candidats qu'on est en train de former. Là, on constate qu'on a beaucoup, souvent, de petites ESN ou des entreprises avec des services informatiques de relativement petite taille qui vont justement profiter de l'opportunité pour pouvoir être en contact avec des personnes qu'elles ne connaissaient pas et qui viennent de se reconvertir. Donc on est là, il y a beaucoup de diversité au niveau d'une POC sur le type d'entreprise qu'ils vont recruter. Ça peut vraiment être très variable, ça peut être une ESN, ça peut être une boîte de com, ça peut être un service informatique d'une grosse entreprise. On a des grosses entreprises, des grosses ESN qui recrutent sur nos candidats issus des POC, et on a des toutes petites entreprises, voire des startups qui le font également. Voilà. Il y a un vrai intérêt parce que c'est une mise en contact avec de nouveaux candidats qu'on ne connaissait pas, de nouveaux profils. Sur une POI, c'est différent. La POI étant un projet de recrutement, il y a deux types, là aussi, de potentiels recruteurs. L'entreprise qui va avoir besoin d'une ou deux personnes. C'est peut-être parce que c'est une entreprise de petite taille ou simplement parce que c'est lié à un projet bien spécifique et elle a besoin d'un complément pour ses équipes. Dans ce cadre-là, on va avoir là aussi parfois des petites ESN. Et on a aussi des grosses ESN, les plus grosses que vous connaissez tous, qui ont aujourd'hui, au début c'était un petit peu compliqué, on pourra en reparler là aussi lors d'une anecdote, c'est pas simple au départ de monter des PO avec des grosses ESN il y a quelques années. Aujourd'hui, la plupart des grosses ESN ont incorporé les dispositifs de reconversion comme étant une part de leur sourcing. Alors évidemment pas essentiel, mais une belle part quand même de leur sourcing et organisent en fait des POEI mutualisés très souvent sur tout le territoire avec des besoins un petit peu partout qu'on va nous en termes de formation dispenser en distanciel forcément, mais organisés de telle manière qu'on peut les prévoir suffisamment à l'avance et monter des programmes spécifiques. L'entreprise X va recruter par exemple 14 développeurs Java sur Paris, Lyon, Bordeaux, etc. On va monter un programme qui va être inspiré de notre programme habituel, mais tenant compte des spécificités de l'entreprise, et on va les aider à organiser le sourcing de demandeurs d'emploi dans leurs critères. Là aussi, je crois qu'on reparlera des critères. Une fois que l'entreprise a sélectionné, pré-recruté ses candidats, on les forme et ils intègrent ensuite les différentes agences de l'entreprise. Donc là, on est sur des grosses ESN. Par contre, on a aussi des petites ESN qui vont... Je parle souvent d'ESN parce que c'est ce qu'on voit le plus, utiliser les POE, qui vont profiter de ce qu'on monte, nous, qui s'appelle des POI inter-entreprises. Ou dans ce cas-là, nous, on est à l'origine de la planification et où chaque entreprise va pouvoir dire, tiens, vous avez une POEI Java inter-entreprise qui démarre en février, ça veut dire que ça finit en mai, moi, j'aurais besoin de recruter quelqu'un avant l'été, aidez-nous à trouver un candidat demandeur d'emploi, on le sélectionne, on l'envoie dans votre POE inter-entreprise et on le récupérera en juin et l'intégrera dans nos équipes. Donc, on a la plupart du temps sur des POE des grosses structures qui ont organisé leur recrutement avec ça. On a aussi beaucoup de plus petites ESN ou des plus petits besoins de recrutement qui vont en fait s'intégrer sur des projets de type POE inter. J'espère que j'ai été clair et pas trop long.
Très bien. Et quelles sont vos interfaces? Quelle typologie d'entreprise?
Alors, nous, un petit peu comme Laurent, en fait, on a un peu de tout. Pourquoi? Parce que la toile, on va présenter aux entreprises une personnalité des personnes bourrées de talent, intrinsèquement, mais qui sont encore en devenir. Donc, on n'a pas tout à fait le même positionnement. 80% de nos formations, ce sont des 17-25 ans, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on les encourage extrêmement vivement. Et on voit qu'ils y vont, à la poursuite d'études. Ils sont encore en devenir, ils ont toutes les possibilités pour continuer. Et donc là, quand on va voir les entreprises, on leur dit que nous, la confiance, on a Jean qui est ici, qui est notre chargé de relations entreprises et d'insertion, on va voir des entreprises, on leur dit, venez et regardez s'il y a un match, s'il y a une personnalité et regardez les projets qu'ils mènent et comment vous allez pouvoir les onboarder. Parce que ce qu'il faut, c'est que la personne puisse identifier comment ça va s'intégrer dans l'entreprise et tout le jeu, il est là et nous, on les accompagne là-dessus. Donc, les plus jeunes, tout le monde n'a pas le certificat. Bien sûr, faut s'en rendre compte, puisque comme on fait un pari sur la motivation, sur le devenir, c'est un temps long, il faut lever certains freins, ce genre de choses. Donc, on a à peu près 82% de réussite au certificat pour les personnes qui se maintiennent jusqu'au bout. Et tout le monde ne va pas dans le numérique et tout le monde ne va pas sur du développement pur. Donc déjà, les entreprises, quand elles viennent, certaines peuvent avoir des besoins dans le digital, certaines peuvent avoir des besoins dans du développement pur, etc. Donc ça, on travaille en fonction du profil de la promotion. Et les entreprises peuvent les prendre soit pour 3 mois un stage non rémunéré, ça c'est très important, c'est qu'en fait nous on mise sur l'accompagnement humain et on veut pas que ce soit un coût financier pour une entreprise qui fait confiance à nos apprenants, soit c'est de l'alternance et c'est en ça qu'on s'associe avec d'autres organismes de formation. On discute par exemple avec Laurent parce qu'on sait bien qu'ils sont encore en devenir, ils doivent encore grandir dans l'entreprise mais ils ont le terreau de base. Donc ça c'était pour le profil les plus jeunes qui vont plutôt aller vers l'alternance. 85%, 90% de nos jeunes qui sont certifiés de la toile poursuivent par des études et possiblement des études longues. Donc ça, pour nous, c'est une vraie remise en mouvement. On voit bien que ce qui manquait, c'était juste cet éclaircissement sur le marché du travail, la connaissance de ces métiers, s'être véritablement testé sur ces technos et d'y aller de manière décidée et volontaire. Et pour le public en reconversion, qui est un peu plus mature, qui a déjà une expérience professionnelle, on voit bien, vous qui êtes aujourd'hui avec nous, j'imagine que cette venue, c'est que vous avez cette sensibilité-là, et c'est ce qu'on recherche dans les entreprises. Les entreprises qui ont conscience que, en fait, la richesse, elle se crée avec la diversité des profils, et qu'on, personne n'a un parcours linéaire, et on peut avoir des, on a tous des compétences qui sont transversales et transférables, et c'est ce qu'on va rechercher. Je peux vous parler de femmes, par exemple, qui sont sorties du marché de l'emploi depuis 8 ans, mais qui ont un bac plus 5 dans le marketing, et qui aujourd'hui se sentent absolument illégitimes pour revenir sur le marché de l'emploi. Elles n'ont plus le réseau, elles ont peur de cette brique du digital, elles ont l'impression de ne plus être légitime. Et donc, nous, on travaille vraiment à cette reconnaissance, à cette reconnexion avec les entreprises. Et derrière, c'est des magnifiques histoires qui se créent. Juste pour finir sur, donc, du coup, les profils, on a des startups, on a des grands groupes de l'ESN, non ESN. Pourquoi ? On a des PME, des TPE, surtout, par exemple, de l'industrie, parce qu'en fait, leur besoin premier, c'est attirer des talents. Les bac plus 5, ingénieurs, eux, ont plutôt une visibilité, on va dire si je devais schématiser, des grands groupes de l'ESN et ne se rendent pas compte de toutes les possibilités et de comment on peut se développer dans ces TPE, PME et particulièrement dans le monde de l'industrie parce que malheureusement, aujourd'hui, elles peinent à attirer ces profils-là alors que vraiment, là, on voit qu'il y a un match qui se crée et finalement, ces profils qu'on met sur le marché du travail, ils sont formés premièrement, ça c'est vrai, par rapport à des bac plus 5, ils n'auront pas le même niveau d'expertise. Par contre, en termes de motivation et j'allais dire de fidélité, parce qu'ils veulent rendre à l'entreprise qui leur a tendu la main, vous avez vraiment des profils extrêmement intéressants et ils apportent une diversité par leur façon de penser et par la richesse de leur expérience vécue avant.
Ouais. Alors, je suis complètement d'accord avec ce que dit Émilie. Je rajouterais aussi que... Aujourd'hui, on est en train de parler des dispositifs. Par exemple, on parlait de POE. Il y a un manque d'informations. Il y a à la fois beaucoup d'informations qui est données dessus, c'est-à-dire qu'on sait que ces dispositifs existent, on sait qu'il y a quelque chose à faire, mais il y a souvent un peu un manque de compréhension, en fait, de la manière dont ça fonctionne. On a vu aussi par le passé, mais non, c'est un petit peu moins vrai au niveau des entreprises. Ben voilà, il y a une opportunité. Hein. On peut recruter des gens qu'on ne connaissait pas, qui viennent d'être formés, et en plus, ça ne coûte rien. C'est fabuleux. Mais il y a vraiment beaucoup plus de profondeur à ces dispositifs de reconversion. Ces histoires humaines existent, ce n'est pas du pipeau, ce n'est pas simplement pour faire joli. C'est clairement des vrais parcours de vie hein, et il y a une vraie richesse à recruter. Hier, je participais aussi à des échanges avec des candidats. C'était une sorte de job dating, de gens qui voulaient avoir des informations, justement, des demandeurs d'emploi hein, sur les différentes possibilités avec la Grande École du Numérique, hein, c'était un projet national, qui voulaient avoir justement des informations sur les dispositifs. Comment je fais pour me reconvertir? Je suis de tel parcours, etc., etc. Là aussi, il y a un grand manque d'informations. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a des dispositifs, mais... c'est pour ça que je rebondissais, Émilie, sur ce que tu disais. Quelle chance j'ai? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je peux me reconvertir vers l'IT? Il y a un besoin de compréhension à la fois des possibilités, hein, de tous les dispositifs, la manière dont ça a été construit, la philosophie de ces dispositifs-là, et qu'est-ce qu'on peut en tirer? Par expérience, ça fait maintenant 5-6 ans que je fais... des PE, des choses comme ça, il y a beaucoup de choses pour les entreprises à en tirer. Parce qu'effectivement, il y a cette richesse de profils un peu différents qui vont apporter leur vécu, qui vont, comme le disait Émilie, être très impliqués, avoir une fidélité plus importante. C'est ce qu'on constate, en tout cas, c'est les retours qu'on a pour l'entreprise qui leur a permis d'évoluer vers une nouvelle carrière qu'ils ont choisie. À la grosse différence de quelqu'un qu'on recrute en sortie d'école ou qui a fait un métier, qui a eu telle expérience, telle expérience, telle expérience, je le recrute parce qu'il est dans ce secteur depuis 5 ou 10 ans. Là, on est sur des personnes en reconversion, on va dire fraîches, en quelque sorte, mais qui ont choisi où elles
c'est
sont
éclairé,
allées.
Complètement. Je peux même juste rebondir, et puis après, j'imagine vous aurez peut-être des questions. Si je devais donner un exemple d'entreprise, parce que celui-là, il est extrêmement parlant. On a eu un groupe de l'ESN, et que j'adore, donc vraiment, je dis avec toute gentillesse envers eux, qui nous ont dit, bon, on connaît EM Lyon, on trouve que le projet est sympa, en plus, ça nous permet de mettre un peu brique RSE, voilà, de cocher une case, pourquoi pas. Par contre, nous, on est quand même très bac, on n'en recrutera pas, mais on veut bien venir faire une table ronde. OK, ils viennent faire une table ronde. Ah, on a bien aimé l'interaction, tout ça. On veut bien venir à votre forum entreprise, mais on ne recrutera pas, nous. Hein. On n'a rien, c'est pas le profil qu'on prend. Mais par contre, on peut les enrichir, les aider un peu comme un entretien préalable, des entretiens d'embauche. Ça peut toujours les entraîner. Pas de souci, venez. Oh, ce projet, il est génial et tout ça, mais comment on pourrait faire? Finalement, on veut bien vous en prendre. Cette personne, je l'ai rencontrée, je pense qu'elle a quelque chose. Je veux bien lui donner sa chance en stage. Pas de souci. Finalement, en fait, je l'ai bien aimé, j'aimerais bien la prendre en alternance. pas de problème. Aujourd'hui, on lui propose un CDI. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'entreprise, quand j'ai discuté avec elle, elle est venue pensant peut-être cocher une case ou se dire, en fait, je crois au projet, je crois en cette reconversion, ça fait écho peut-être avec quelque chose que j'ai vécu, c'est souvent des rencontres humaines, hein, c'est véritable. Et finalement, je me suis rendu compte que sa peur, c'était, mais comment je vais l'onboarder? Comment je vais l'intégrer dans une équipe de Bac plus 5 qui sont tous sortis, donc j'ai l'habitude de fonctionner avec eux parce que ça roule, parce que ça avance, parce que c'est facile. Et finalement, leur appréhension était plutôt humainement, est-ce que la personne va bien s'intégrer? Est-ce que je saurais lui apporter le temps nécessaire, la nourrir comme il faut pour l'accompagner à grandir? Et finalement, c'était plus ça leur appréhension. Et nous, heureusement, comme on a des personnes qui sont chargées d'insertion, on les suit en entreprise, on les accompagne aussi quand ils sont dans d'autres organismes de formation pour continuer ce chemin et pour faire une boucle vertueuse dans leur intégration, j'allais dire.
Oui, c'est-à-dire que il y a deux types en fait de recrutement via ces dispositifs-là. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a vraiment le recrutement opportunité, voilà, quelqu'un qu'on est en train de former, voilà, recrutez-le. Ou tiens, je veux déclencher une PEE ou un autre dispositif parce que j'ai besoin de recruter, je trouve personne. Et il y a le recrutement qui va être réfléchi et intégré dans une vraie politique RH quelque part, puisque justement, que ce soit via la toile sur, par exemple, des infrabacs ou que ce soit sur une PEE, classiquement, les grosses ESN restent coincées sur du Bac plus 5, etc. Mais dans un cas comme dans l'autre, si on le prépare, on va intégrer peut-être de futures pépites qu'on n'aurait jamais pu avoir. Mais ça se réfléchit et ça s'intègre dans une politique RH. Donc, il y a les deux aspects de ce recrutement, l'opportunité et la stratégie RH qu'on développe pour inclure des personnes venant de reconversion qui vont enrichir les effectifs avec des particularités. Je sais, je crois, Marie-Laure, que tu veux venir sur ce sujet très bientôt, mais ça permet aussi de favoriser la diversité dans les recrutements, de parcours, de personnes, etc. Je pense que c'est ce vers quoi tu voulais aller, Marie-Laure, peut-être.
Oui, et juste, je voulais rebondir. Après, il y a Véronique Monchablon qui a levé la main, donc on va lui donner la parole. Je voulais rebondir sur effectivement l'onboarding, et je pense que c'est très important de bien avoir conscience qu'il faut embarquer l'ensemble des équipes de l'entreprise sur le projet. Hein, ça peut pas être une décision de la direction ou de la RH seule. Il faut vraiment embarquer l'entreprise ou l'ensemble des équipes sur ce projet, parce qu'effectivement, c'est onboarder des profils différents, mais on a des beaux parcours de réussite, hein, vous en avez cité quelques-uns. Donc il y a des belles réussites dans ces profils. Véronique.
Marie-Laure, j'appuie juste ce que tu veux dire en disant, effectivement, ça peut être tentant de dire c'est un joli projet RH, mais il faut absolument embarquer les opérationnels. Parce que parfois, les RH vont être convaincus, la plupart des personnes vont être convaincues, mais l'opérationnel, parfois, peut avoir tendance encore à bloquer, parce qu'il n'est pas habitué à ça, il a peur que la personne ne puisse pas être intégrée dans les missions, etc., etc. Donc, il faut vraiment, comme tu le dis, que tout le monde soit embarqué dessus et comprenne bien les tenants, les aboutissants et l'objectif final.
Et effectivement, on va dire la courbe d'apprentissage en entreprise, elle est quand même assez rapide, hein, même s'ils arrivent avec des manques, enfin voilà, par rapport à une formation classique, il y a une courbe d'apprentissage en entreprise qui est assez phénoménale parce que c'est des gens extrêmement volontaires, quoi. Voilà.
En fait, ça, je pense que Laurent, tu serais d'accord avec moi. Ça, c'est notre problème, on va dire, au niveau de la formation. Ça, c'est ce qu'on doit voir nous. C'est comment la personne arrive à apprendre, à réapprendre et sa faculté justement à monter sur les techno. Parce qu'on ne va jamais leur apprendre tous les langages, on ne va jamais tout voir, certainement pas en 400 heures ou nous en 500 heures. Mais l'important, c'est d'avoir une structuration de base très propre, très claire et travailler avec l'entreprise par rapport à son besoin. Et c'est comme ça que derrière, on sait que quand on va l'amener, on sait que la personne est mûre, elle est prête, elle a compris. Et après, comme vous dites, la courbe d'apprentissage, parce qu'il y aura d'autres technos à apprendre, il y aura une culture, les logiciels, les applis, toute la culture pure à l'entreprise. Et ça, finalement, nous, on sait que le terreau, il est là et ça va aller. Madame Montchabon?
J'ai juste une petite question. Désolé, concernant. Non, moi, j'utilise les POE et, sur les deux agences à Lyon et à Strasbourg régulièrement, mais par rapport à la toile, les statuts des personnes que vous prenez, il faut qu'ils soient à Pôle emploi ou pas? Ça, j'ai pas compris.
Alors,
parce que comment ils sont financés? Comment c'est?
Alors,
comment
ça financer, c'est voilà. Même Lyon. Alors, ça, c'est facile. C'est notre politique d'égalité des chances. C'est un vrai projet de notre direction générale. Donc, c'est financé par M. Lyon. Donc, nous, ils n'ont pas d'aide pour se maintenir en formation. Ça montre aussi une petite motivation quand même quand on voit les personnes d'où elles viennent. Donc, les 17-20, en fait, ils ont tous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Ils ne sont plus étudiants, quel que soit leur âge. Donc, ils rentrent dans la formation continue. 17-25 ans, ils viennent pratiquement exclusivement des missions locales, de l'AFPA, des acteurs de l'ESS du type sport dans la ville. Parce qu'en fait, ils se sentent pas légitimes, ils ne pensaient pas reprendre forcément une formation. Ils sont souvent sortis du système scolaire parce que des troubles d'apprentissage non diagnostiqués, exemple des 10 ou des choses comme ça. Et donc, du coup, ils n'ont pas pu se maintenir parce qu'ils n'ont pas compris qu'en fait, ils avaient besoin d'une autre forme d'apprentissage pour continuer et à progresser. Et c'est en ça qu'on est très fiers quand ils reprennent leurs études derrière. Et autrement, les plus de 26 ans, qui ont une maturité, on va dire, d'expérience professionnelle. Là, on est dans la reconversion, donc il faut qu'ils soient inscrits au Pôle emploi. Bon, ce sont les deux critères pour être éligibles.
Stagiaire ou reconversion, OK.
Pour compléter aussi ce que disait Émilie par rapport aux différents profils, c'est vrai qu'avec Émilie, on est sur des publics souvent différents, hein, sur les POE, notamment concernant des ESM, on va rester très souvent sur du strict minimum Bac plus 2 ou 3, et les ESM ont encore très tendance à rechercher des Bac plus 4 ou 5. Néanmoins, simplement une remarque, sur ce que je constate, les ESM recherchent encore des gens qui ont fait des études supérieures. Parce que quand on fait des études supérieures, et surtout quand on n'en est pas très loin, c'est-à-dire qu'on est encore assez jeune, on sait apprendre, on sait intégrer de nouvelles choses et les mettre en pratique rapidement et construire dessus rapidement. Parce qu'on a appris, c'est ce qu'on a appris en fait dans les études. C'est le gros problème des gens qui n'ont pas fait d'études, ou encore pire, les infrabacs. On ne leur a pas appris, ils n'ont pas appris à apprendre. Ce n'est pas un problème de capacité, ce n'est pas un problème de potentiel, c'est un problème de « je ne sais pas apprendre rapidement, intégrer et restituer, mettre en pratique ce que j'ai appris ». Et je pense que c'est du coup essentiel le travail que fait la toile pour justement aider ces personnes-là à se mettre en selle, à apprendre dans une optique métier. Tous les dispositifs de reconversion qui fonctionnent ont une optique métier pour pouvoir mettre en pratique tout de suite et être payé pour ça, ça s'appelle un travail, ce qu'on a appris. Et la première brique pour ces publics-là, c'est d'apprendre à apprendre ce que tous ceux qui ont fait des études supérieures ont la chance de savoir faire sans même le savoir. C'est une énorme différence dans la population des demandeurs d'emploi, et notamment.
Et croire en sa réussite en plus aussi. Croire en sa capacité. Ça, On le voit bien qu'ils se mésestiment souvent en début d'année et ils sont épatés de voir tous les jours, parce que tous les jours, en tout cas pour nous, mais j'imagine que votre fonctionnement est le même, Laurent, tous les jours, ils montent sur des technos, ils font par eux-mêmes, ils débuguent par eux-mêmes, on ne leur donne jamais les réponses, parce que justement, l'important, c'est qu'ils arrivent à trouver la solution par eux-mêmes, par différents moyens, et de voir qu'ils sont capables, qu'ils sont dans la réussite et qu'ils y arrivent. Et donc, du coup, là, on touche à quelque chose. Et donc, dans le fonctionnement neuronal, on est en train de construire ces briques-là qui vont leur servir par la suite.
Très bien. Ben, merci beaucoup. Marie-Laure, tu voulais...
Pas spécialement, on a peut-être des questions dans...
Alors, je voulais juste préciser un truc que je n'ai pas dit, parce qu'on a parlé beaucoup, moi j'ai parlé beaucoup de PEE, il y a un autre dispositif, alors il y en a plusieurs autres, hein, mais il y a un autre dispositif qui est un peu plus récent, qui s'appelle le PRF, qui est le plan de formation, plan régional de formation, qui du coup est régionalisé, hein, c'est chacune des régions de France qui montre son PRF. Vous allez être sur un dispositif qui est, grosso modo, sur le principe et le mode de fonctionnement identique à une POEC. C'est-à-dire, on va avoir là pour le coup, c'est la région qui va déclencher, non pas la branche professionnelle. On va former des demandeurs d'emploi et ces demandeurs d'emploi vont être amenés, donc justement, sur des compétences métiers, alors, de la même manière, et rester demandeurs d'emploi, donc pouvant être embauchés par toutes les personnes qui les rencontreront. La différence, c'est que le PRF est financé par la région. Et la deuxième différence, qui est notable, c'est que le PRF dure à peu près deux fois plus de temps, une durée deux fois plus longue, que la POEC. Donc, c'est moins immédiat. Par contre, ça permet un travail plus en profondeur. Il y a aussi une période de stage qui est importante dedans. D'ailleurs, si vous souhaitez accueillir des stagiaires de PRF, vous pourrez me le dire, il n'y a pas de souci. Et toujours pareil, avec une optique métier. Donc, c'est un nouveau dispositif aussi. De la même manière, ça permet d'avoir des personnes qu'on va pouvoir recruter, qui ont été sélectionnées par l'organisme de formation, formées par l'organisme de formation, le tout financé, cette fois, par la région. Évidemment, vous savez qu'Auvergne-Rhône-Alpes est très actif sur ces sujets.
Alors, en tout cas, nous, c'est sûr que sur 17 semaines, donc ils sont là à peu près 4 mois et demi, et je ne compte pas les options parce qu'il faut faire de la pré-incubation. Enfin, là, après, c'est le réseau de l'EM Lyon qui prend la suite. Il est vrai qu'en tout cas, pour nous, d'avoir 3 mois de stage derrière, non rémunéré pour l'entreprise, j'insiste, parce que c'est du temps humain qu'on leur demande et on se dit que comme ils font confiance à nos apprenants, on ne veut pas mettre une notion financière là-dedans. Ça a vraiment du sens parce que, un, ça finit de qualifier la compétence de la personne, la volonté d'aller vers tel type de métier ou tel type de technologie. Ça permet vraiment d'être confronté à la réalité d'une équipe, d'être intégré, ce genre de choses. 3 mois, c'est même encore trop court, mais c'est le maximum permis par la loi en dehors de pour des personnes qui n'ont plus de statut étudiant et pour ne pas être rémunérées par l'entreprise. Et nous, on trouve que, en tout cas, ces 3 mois ont vraiment du sens avant de pouvoir réenclencher sur une autre structure scolaire, comme par exemple M2I Formation, avec le biais de l'alternance ou ce genre de choses.
Alors, il y a de plus en plus d'ailleurs de projets. Quand on parlait tout à l'heure que notamment les grosses ESN maintenant ont intégré ça et planifient leur stratégie de recrutement de personnes en reconversion, on a de plus en plus de projets qu'on monte chez M2I où vous avez une partie PEE et une partie alternance derrière. C'est-à-dire qu'on va donner un socle métier à des personnes en reconversion qui vont ensuite intégrer l'entreprise en alternance en vue d'obtenir un diplôme. On le fait de plus en plus. Par contre, ça veut dire que l'entreprise doit planifier sa stratégie de recrutement un an et demi avant. Donc on est vraiment sur du recrutement de personnes en devenir, mais dans un deuxième temps encore. Donc c'est quasiment une école externalisée, en fait, pour de futures pépites qu'on recrute bien en amont.
En fait, ce travail, quand on voit les entreprises, on a bien conscience que vous, votre besoin, c'était déjà il y a 6 mois, voire même avant. Et ça va tellement vite, et les technos changent, etc., etc. Mais en fait, il faut vraiment l'intégrer dans une stratégie RH en accord avec les équipes et toujours en lien avec les besoins des équipes. Mais pourquoi ? Parce que là, on fait appel à une autre stratégie, une stratégie à plus ou moins moyen terme, où on va intégrer d'autres profils. On va peut-être leur donner aussi des fonctions que vos fameux Bac plus 5, ne voudront pas faire. Pourquoi ? Parce qu'elles sont plus opérationnelles, plus, on va dire, de premier niveau, et que les personnes qui sortent d'école du type EM ont peut-être une autre prétention sur le marché de l'emploi et pensent que s'ils ont fait ce bac plus 5 plus des briques de management, ils ont envie de se positionner différemment dans une entreprise. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment quelque chose à travailler avec les directions dans une stratégie RH de véritablement de ce que vous voulez aussi demain, rien que pour le savoir. Aujourd'hui, dans vos équipes, j'imagine que vous avez des personnes qui sont rentrées dans ces technos, qui ont peut-être maintenant ont dans les 50, 60 ans. Et il y a aussi ce côté, comment on va donner ce savoir, le transmettre à des publics plus jeunes. Et donc, c'est vrai que les publics qui sont en reconversion sont plus à même de prendre toutes les informations, cette humilité d'apprendre des plus anciens, etc., etc. Et ça crée une autre dynamique, un peu de mentorat. Et ce qui est aussi intéressant, je trouve, dans les entreprises pour vraiment conserver le savoir d'une entreprise.